Les matins de France Culture. Florian Delorme.
Et oui, il y a tout juste un an, les électeurs faisaient le choix d'Emmanuel Macron pour conduire les affaires de l'État, l'envoyant à l'Élysée, d'où il orchestre depuis 12 mois maintenant les réformes au pas de charge. Si la confiance des Français est encore relativement solide après un an de pouvoir, en tout cas comparé à ses prédécesseurs, il est fragilisé par les récentes mobilisations sociales et une étiquette de président des riches qui lui reste collée à la peau. Alors, un an après l'élection d'Emmanuel Macron et les diverses réformes mises en place par le gouvernement, comment se porte la société française? Comment résiste-t-elle aux transformations promises et engagées? Bien comme chaque année, la journée du 1er mai est un bon baromètre pour mesurer l'état social du pays. Voilà un peu l'ambiance lors de la manifestation du 1er mai dernier, des attaques de commerce, des incendies de véhicules qui ont montré que la fièvre sociale pouvait être productrice de violences physiques. On l'a vu d'ailleurs à d'autres occasions, dans les universités, à Notre-Dame-des-Landes, mais même si certains considèrent que précisément, bien les forces de police y ont plutôt fait preuve de mesure, il n'en demeure pas moins que ces espaces ont été des espaces où se sont exprimées des formes de violence qui révèlent un certain malaise. Bonjour Yves Michaud.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes philosophe, spécialiste de philosophie politique. Vous avez mené beaucoup de travaux qui vont du tourisme à l'art, en passant par la laïcité, la citoyenneté ou encore la violence, justement. Vous aviez écrit en 1978 un essai remarqué sur la violence, violence et politique, c'était chez Gallimard. Et puis plus récemment, en 2002, un autre essai sur le sujet, changement dans la violence, essai sur la bienveillance et sur la peur. Est-ce que vous diriez qu'un an après l'arrivée d'Emmanuel Macron, la société française est plus encline à l'expression de la violence? On entendait parler, là, juste avant, dans les journaux, d'un réveil de la violence politique, Yves Michaud.
Bah écoutez, là, j'avoue que je suis assez sceptique sur le réveil de la violence politique, parce qu'avec le privilège de l'âge, malheureusement, j'ai traversé pas mal de choses, et puis j'ai aussi fait mes études sur la violence depuis les années 70, un début, même 1973, mon premier ouvrage sur la violence. J'étais en plein milieu des événements de mai, donc disons que j'ai une longue expérience. Donc, d'une certaine manière, je ne partage pas le diagnostic d'un réveil de la violence politique. Pensez aux années 70, il y a eu du terrorisme, il y a eu des meurtres, il y a eu des assassinats, la violence était très courante, sans même remonter, je dirais, à la très grande violence dans les affrontements dans les années 50, dire, avec un parti communiste qui était très fort, et un service d'ordre qui était très efficace, et surtout une police qui était dans le tout ou rien. C'est là où je vais revenir à aujourd'hui, c'est-à-dire que pendant très longtemps, on a eu une police qui était très peu équipée, si vous voulez, pour la répression. Les gardes mobiles, jusqu'à il y a 30 ans, avaient des mousquetons, un point c'est tout. Un coup de crosse, c'était pas un coup de bâton.
Vous voulez dire quoi? Qu'aujourd'hui, la police a de meilleurs moyens pour contenir la violence?
Bien évidemment.
Domestiquer la violence.
J'ai écrit un livre en 96 qui s'appelait « La violence apprivoisée », c'est-à-dire qu'on domestique la violence. C'est-à-dire qu'on peut la pratiquer de manière extrêmement graduée. Aujourd'hui, les policiers sont habillés comme des ninjas. On a découvert qu'il fallait leur mettre des tenues ignifugées parce que les gens utilisent des cocktails Molotov. Les tactiques aussi policières se sont améliorées. Je dirais la violence, elle est beaucoup plus graduelle. Et d'ailleurs, vous voyez que lors du 1er mai, on arrive à arrêter 200 manifestants et sans qu'il y ait de casse, sans qu'il de blessés, dire, c'est tout à fait inédit. La dimension qui change, je dirais, c'est que comme tout ceci se passe absolument en direct sous le regard des médias, d'abord toute forme de violence fut-elle assez bénigne et montée en épingle, on voit ça sur les réseaux sociaux, on vous explique que c'est scandaleux, etc. Et puis par ailleurs, effectivement, ça oblige la police. Hélas, ça oblige pas les manifestants, mais ça oblige la police à faire preuve d'une grande mesure. De ce côté-là, contrairement à ce qu'on a dit dans les polémiques, moi j'ai trouvé que la manière dont la police a géré le 1er mai était tout à fait excellente. Ce qui était important, c'était effectivement d'éviter de la casse humaine. Ce qui était important aussi, ça on n'y a pas souligné, c'était d'arrêter beaucoup de gens pour pouvoir ensuite faire du renseignement sur qui sont les gens du Black Bloc. Hein. Je veux dire, moi, si vous me donnez aujourd'hui les noms de 200 personnes avec Facebook, Twitter, etc., demain, je vous donne un réseau de 1200, 1500 personnes. Je veux dire. C'est pas difficile. Donc, la dimension de communication est fondamentale.
Finalement, voilà. Une société peut-être moins violente qu'il n'y paraît, en tout cas qu'il n'y paraît dans les médias. Mais Yves Michaud...
En revanche, ce qu'il faut dire, ce qui est très important, c'est que les paroles violentes sont très importantes aujourd'hui, et c'est elles qui risquent de faire déraper.
Notamment dans les discours politiques.
Notamment dans les discours politiques, mais aussi, je dirais, sur les réseaux sociaux. C'est un espace de violence très important.
Justement, essayons de comprendre les origines, finalement, de cette violence, en tout cas dans les discours. Il y a une majorité de Français qui considèrent que le président tient ses engagements et qu'il a fait ce qu'il avait promis. 57%, c'est un très récent sondage de l'IFOP. En revanche, la méthode avec laquelle il réforme et la manière d'exercer le pouvoir peut paraître parfois comme brutale. Beaucoup ont l'impression qu'il est finalement le seul à décider, que son Premier ministre est très, peut-être trop en retrait, que le Parlement est aux ordres, sans compter la démocratie sociale qui semble totalement disqualifiée. On l'a vu avec les différentes réformes, où finalement les syndicats pèsent très peu dans les négociations, qui ressemblent plus à des simples consultations de façade. Est-ce qu'on n'a pas là une concentration du pouvoir qui en réalité serait productrice de violence ?
Alors, il y a dans la structure, je dirais, institutionnelle française, il y a un problème. C'est qu'effectivement, on est en régime présidentiel. Donc, à la limite, le Premier ministre soit relativement effacé, ça n'a rien de surprenant. Dans un vrai régime présidentiel, il n'y aurait d'ailleurs pas de Premier ministre, comme l'avait dit Fillon à un moment, avant de rester 5 années Premier ministre. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de contre-pouvoir du côté, je dirais, du législatif, à la différence du régime américain. C'est-à-dire, Trump ne fait pas ce qu'il veut, contrairement à ce qu'on croit. Il peut tweeter tout ce qu'il veut toute la journée, mais il fait pas ce qu'il veut parce qu'il a le Sénat et la Chambre des représentants qui détiennent le vrai pouvoir législatif. Moi, je pense qu'en France, il serait très important qu'on ait d'un côté, effectivement, un pouvoir présidentiel fort, ne serait-ce que pour gérer ce qu'on appelle l'exécutif, et qu'il faudrait avoir un Parlement qu'on soit presque tout le temps en cohabitation, parce qu'à ce moment-là, ça oblige l'exécutif à présenter des projets qui sont votables, je dirais, par le législatif.
Le problème en France, d'une certaine manière, là, peut-être le retour en force du président, la verticalité imposée par Emmanuel Macron a peut-être changé les équilibres qu'il y avait d'habitude. Il y a des études intéressantes, en tout cas sur les dernières années, des études intéressantes qui montraient que François Hollande souffrait d'un véritable déficit d'autorité. En avril 2013, un an après son élection, seuls 14% des Français reconnaissaient qu'il avait de l'autorité. Quand on regarde les choses aujourd'hui, 73% des Français considèrent qu'Emmanuel Macron a de l'autorité. Là, il y a peut-être quelque chose à creuser dans le lien entre violence et autorité. L'ambition du candidat Macron, c'était de rétablir l'autorité de l'État. Est-ce que ça n'allait pas aussi de pair avec la nécessité de montrer que l'État est capable d'imposer une certaine violence et que de surcroît, cette violence est légitime précisément parce qu'elle provient de l'État ?
Normalement, l'État, je veux dire, c'est la théorie classique weberienne, l'État a le monopole de la violence légitime. Ce qu'on voit dans les manifestations, c'est que c'est pas vrai. Hein. Et d'autre part, ce qu'on voit aussi au niveau judiciaire, c'est que c'est pas vrai non plus. Moi, j'ai dit tout de suite que sur les 200 personnes qui étaient arrêtées, il y aurait pratiquement aucune condamnation. Parce que notre droit n'est pas du tout adapté à la gestion de ce type de cas. Donc, moi, je suis de ceux qui considèrent que Macron a eu raison de rétablir l'autorité du président et l'autorité de l'État. Ce que je reprocherais à Hollande, ce que beaucoup de gens d'ailleurs lui ont reproché, c'est de n'avoir pas utilisé le pouvoir qu'il avait, d'avoir continué à vouloir continuellement négocier. Il y a un moment où vous êtes obligé de décider, surtout dans un pays comme la France, alors là je vais, en plus je ne suis pas un inconditionnel de Macron, mais surtout dans un pays comme la France qui souffre d'un nombre de blocages multiples et qui fait que dès qu'on touche à quelque chose, ça devient un problème d'État. Donc inévitablement, je dirais, toute décision... En plus, regardez, on a un taux de syndicalisation qui est quand même très faible en France, mais on a des syndicats qui sont très puissants, je dirais, du point de vue réglementaire. Donc, je veux dire, on a souvent des syndicats qui sont relativement minoritaires, qui décident aussi d'actions qui ont un impact très fort sur la vie collective. Donc, je dirais, c'est un ensemble de problèmes. Je veux dire, je pense pas que Macron... agissent de manière particulièrement autoritaire. En revanche, c'est vrai que si...
C'est pas ce que disent les Français.
Non, c'est pas ce que disent les Français, mais les Français sont quand même aussi habitués à un État qui n'exerce plus ses prérogatives. Je veux dire, on parle de violence. Moi, ce qui m'étonne quand même, je quitte pas le sujet, mais je reviens un peu en arrière. 2005... Hein, les banlieues se sont toutes enflammées. Personne n'a voulu admettre que c'était une intifada à la française. Un niveau de violence qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Je veux dire, tous les observateurs étrangers ont dit c'était une intifada 2005. Je veux dire, dans toutes les banlieues se sont enflammées.
Dans les formes de la violence, mais ça s'arrête là. La comparaison s'arrête là.
Oui, mais je veux dire, d'un autre côté, je veux dire, cette violence-là de 2005, elle était très, elle anticipait tous les problèmes qu'on a depuis, je dirais, avec le radicalisme, le salafisme, etc. Les enfants qui aujourd'hui, les gamins dans les collèges, dans les lycées, qui sont des islamistes purs et durs, ce sont les enfants des gens de 2005. Je veux dire, on a eu énormément de violence à ce moment-là, et celle-là, curieusement, on veut pas la voir, si vous voulez. Le risque qui est dans la situation française, le risque réel, c'est que la concentration des pouvoirs exécutifs, législatifs et la faiblesse des syndicats et de la négociation sociale nous mettent dans une situation, je dirais, comme au temps du général de Gaulle en 1968, sauf que le général de Gaulle était usé et que, je veux dire, son parti aussi était usé, mais il y avait une concentration du pouvoir extrême et en même temps, ça échappait à la société française. Mmh. Je pense qu'en revanche, Macron lui comprend mieux la société française.
Alors essayons de comprendre justement cette potentialité de violence et peut-être l'injustice sociale qu'il y a derrière. Parce qu'il y a beaucoup de critiques qui viennent essentiellement de la gauche, qui considèrent qu'Emmanuel Macron défend avant tout l'intérêt des plus aisés. On se souvient de la charge récente de François Hollande qui disait qu'il n'était pas le président des riches mais le président des très riches. Il faut dire que les cadeaux aux plus riches sont assez mal passés. La suppression de l'USF, la mise en place d'une flat tax de 30% sur le revenu du capital. D'aucuns considèrent que les mesures visant à protéger les plus faibles sont beaucoup trop timides, beaucoup trop modestes, voire on lui reproche même de s'en prendre aux plus modestes. On l'a vu notamment avec l'augmentation de la CSG pour les retraités qui lui a été beaucoup reprochée. Est-ce que le « en même temps » macronien n'a pas oublié un petit peu en route l'impératif social?
C'est possible, sauf que je crois que la priorité, c'est un peu la priorité qui avait permis à Clinton d'être élu, c'est « it's the economy, stupid ». C'est l'économie qui compte. Le pari de Macron, et je crois qu'il va le gagner, le pari de Macron, c'est de relancer la machine économique. C'est de créer de l'emploi, on va le voir dans l'année qui vient, c'est de rendre plus souples les entreprises. Nous allons dans une société où il va y avoir des suppressions d'emplois considérables. Hein, on n'a rien vu encore. Et ça, c'est juste la conséquence de la révolution numérique. Donc, il faut que l'économie reparte.
Relancer l'économie, Yves Michaud, ça fait un programme politique, ça fait un projet de société, ça?
Ah bah oui, quand on a autant de chômeurs qu'on en a, oui. Quand on a autant de gens qui sont lâchés, oui. Quand on a autant de gens qui vivent avec les minima sociaux, oui.
Ça suffit.
Bah écoutez, vous avez un salaire médian français qui est à 1700 euros. C'est invraisemblable. Je veux dire, la France est un pays qui est pauvre. La France est un pays qui a du chômage. La France est un pays où il y a beaucoup d'exclus. Et donc, ce qu'il faut, c'est absolument relancer la machine économique.
Ça fait un projet politique. Je repose la question.
Oui.
Tout à l'heure de la crise de la citoyenneté. Ça suffit de dire on va relancer l'économie?
Je crois que c'est un préalable. C'est un préalable, mais en même temps, alors là je vais parler comme Macron, en même temps, il faut, et de ce côté-là, moi j'attends beaucoup du côté de l'école, il faut relancer la machine éducative. Je crois que les deux, parce que la machine éducative, c'est celle qui prépare les nouvelles générations. Mmh. Et donc il faut qu'on ait des gens qui soient, je dirais, bien formés, qui soient susceptibles d'entrer dans des professions, et qui soient susceptibles aussi d'en changer. Je veux dire, ça va être notre... Les fameux millennials, c'est ces gens qui sont nés entre 90 et 2000, ils vont avoir une vie extrêmement difficile. Donc il faut les former. Donc je dirais relancer l'économie d'un côté, parce qu'encore une fois, la France est un pays pauvre. Hein, je veux dire, quand on se balade pas uniquement dans le centre de Paris, je peux vous dire que la France est un pays pauvre. Hein. Aller dans n'importe quelle banlieue, c'est pauvre. Et puis, en même temps, la France était devenue un pays, je dirais, déséduqué. Il faut être sérieux là-dessus, déséduquer.
On reviendra sur la question de l'école, mais vous parlez de la relance économique. Quid du modèle social français? Est-ce que vous avez compris ce que Emmanuel Macron voulait en faire? Est-ce que vous pensez qu'il veut vraiment le réparer, ou est-ce qu'il considère que finalement, aujourd'hui, dans ce monde de 2018, compte tenu précisément des difficultés économiques que traverse notre pays, eh bien, il n'est plus viable?
Moi, je crois qu'il est viable, mais moyennant des...
Mais lui, pense-t-il?
Ah, je pense qu'il, si vous prenez le cas, un cas précis, c'est celui de la réforme des retraites. Je pense qu'il est, il veut maintenir le régime français de retraite, le régime de solidarité sociale, mais on peut pas le continuer sous la forme qu'il a actuellement. On peut pas avoir des gens, d'une part, qui, par exemple, fonctionnaires, qui vont avoir leur retraite calculée sur les 6 derniers mois ou les 2 dernières années, et puis des gens pour lesquels la retraite dans le privé est calculée sur la moyenne de la carrière et sur les 20 années mieux payées. On peut pas avoir à la fois des fonds de pension. On a un fonds de pension. Moi, j'y ai cotisé. C'est le fonds de pension des fonctionnaires, le préfonds. Hein, et puis avoir des gens qui n'ont pas de fonds de pension. Je veux dire, il faut quand même être sérieux. Surtout que, par exemple, les fonds de pension, il y a des fonds de pension qui sont spéculatifs. On dénonce toujours les fonds de pension américains spéculatifs, mais en même temps, les fonds de pension, ils ont intérêt aussi à investir correctement l'argent dans des entreprises qui durent. Donc, je veux dire, ils peuvent être un facteur de stabilité. Je crois que la réforme de retraite en dira long, justement, sur le modèle social que Macron adopte. Et pour le moment, je pense que ça va dans le bon sens. Le seul problème, c'est que ça va toucher quand même pas mal de personnes, parce que il y a beaucoup de régimes spéciaux, comme on dit. Ça va depuis les sénateurs, hein, je veux dire, être sénateur en 18 ans de Sénat, vous avez 35 ans de cotisation. Donc c'est, et puis la SNCF, et puis les fonctionnaires, et puis ça va faire couiner, ça c'est sûr. Mais je crois qu'on verra sur la réforme des retraites, on verra quelque chose de significatif.
Yves Michaud, il y a quand même un paradoxe. Une partie de la société française, en tout cas, considère que le président avantage les plus favorisés, n'en fait pas suffisamment pour les plus fragiles. Il est accusé de malmener au moins le modèle social français. Et dans le même temps, eh bien, les mobilisations contre l'action de son gouvernement sont relativement limitées. On a des journées d'action sociale qui ne montre pas de mouvement généralisé, profond, comme on l'avait vu en 95, en 2006, lors des actions contre les manifestations contre le CPE. La fameuse convergence des luttes par laquelle les revendications se retrouvent dans un même moment de contestation n'est pas advenue. Comment comprendre ce paradoxe? Pourquoi la mobilisation n'est pas à la hauteur de la casse sociale dont, en tout cas, certains le rendent responsable?
Ben moi, je pense que la mobilisation n'est pas si forte, mais qu'en revanche, elle est extrêmement bien médiatisée. Aujourd'hui, on vit strictement, je dirais, sous le regard des caméras, sous le regard des vidéos. Moi, j'ai été frappé en regardant les vidéos du 1er mai de voir que les policiers sont accompagnés par une nuée de gens qui sont des reporters, je veux dire. Donc tout prend une dimension absolument exceptionnelle, et mais du coup, je dirais que c'est pas parce que vous avez 300 personnes qui occupent une fac que tous les étudiants sont favorables à l'occupation de la fac. Moi, dans les années 70, à Montpellier, quand je suis débuté ma carrière, toutes les années, la fac était occupée, toutes les années. Je veux dire, mais comme il y avait que le Midi Libre pour en parler, personne ne savait que c'était occupé.
On vous retrouvera dans quelques instants, Yves Michaud, vous êtes philosophe. On évoque ensemble cette première année d'Emmanuel Macron.